Laudetur Jesus Christus.
L'escalade douanière se poursuit entre la Chine et les États-Unis. Pékin réplique avec sa propre surtaxe de 125% sur les produits américains, bousculant les marchés boursiers européens. On fait le point en début de ce journal. 50 ans après la guerre civile au Liban, des commémorations organisées dans tout le pays, alors que la société est aujourd'hui divisée sur la stratégie à adopter face à Israël. Les Gabonais appelés aux urnes pour désigner leur président ce samedi, 19 mois après la chute de la dynastie Bongo, l'Église exhorte à faire de ce rendez-vous électoral un tournant historique pour le pays. Et puis manifestation massive contre l'insécurité à Lima, où les assassinats perpétrés par des bandes criminelles se multiplient. Reportage à suivre.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. Avant de développer ces titres, des nouvelles du pape François. Son état de santé s'améliore, informe la salle de presse du Saint-Siège. Preuve en est l'usage moins fréquent de l'oxygénation. Le Saint-Père a rencontré plusieurs chefs de dicastère et responsables de la curie ces derniers jours. Mais il est encore trop tôt pour confirmer ou non la présence de l'évêque de Rome au rite de la Semaine Sainte. On sait en revanche que le cardinal Leonardi Sandri célébrera ce dimanche la messe des rameaux par procuration du pape. Et on apprend par ailleurs la dernière prédication du carême a eu lieu ce vendredi matin dans la salle Paul VI du Vatican. Le père capucin Roberto Pasolini a choisi de méditer sur les épisodes de l'évangile qui ont suivi la résurrection. Le prédicateur de la maison pontificale estime que les chrétiens sont invités à devenir, je cite, les témoins et les animateurs d'une humanité nouvelle en passant par la porte étroite de l'amour du Christ. Toutes ces informations à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. La guerre commerciale lancée par Donald Trump tourne au duel avec la Chine et celle-ci promet de ne pas se laisser faire. Pékin annonce ce matin une nouvelle augmentation des droits de douane sur les produits américains, les passant de 84% à 125%, Marie Duhamel.
Oui, ces produits destinés au marché américain sont désormais taxés à 145%. La Chine dénonce un jeu sur les chiffres qui n'a plus aucune signification économique pratique. Le ministère chinois du Commerce parle de farce, promet de saisir l'OMC, car la stratégie américaine est à l'égard de la Chine et contre revient, selon lui, sérieusement aux règles du marché et aux lois économiques de base, ainsi ajoute-t-il qu'au bon sens. La Chine prévient qu'elle ira jusqu'au bout si les États-Unis insistent pour continuer à empiéter de manière substantielle ses droits et ses intérêts. Face à Donald Trump, Pékin fourbit ses armes. Elle pourrait décider de cibler les produits américains de certaines marques, leur inventant par exemple des problèmes de réglementation. Elle pourrait aussi limiter ses exportations de minerais stratégiques qui, on le sait, sont indispensables pour les produits de nouvelles technologies. Au niveau monétaire, la Chine pourrait d'évaluer encore sa monnaie, mais elle ne veut pas non plus noyer les marchés de ses produits qui se trouveraient davantage taxés. Bref, chaque option a sa contrepartie. Ce qui est sûr, c'est que Pékin cherche des alliés. Après un rapprochement avec Tokyo et Séoul, Xi Jinping, qui recevait ce matin le Premier ministre espagnol, a appelé l'Union européenne à résister à ses côtés à toute coercition unilatérale. Un sommet UE-Chine est annoncé pour juillet à Pékin.
Et puis la Commission européenne vient d'annoncer la tenue d'une réunion entre l'UE et Washington et l'administration Trump à Washington lundi prochain. Washington continue de se rapprocher de Moscou. Steve Witkoff, l'émissaire du président américain Donald Trump, est arrivé en Russie, a affirmé ce vendredi le porte-parole du Kremlin. La raison de la visite n'a pas été communiquée. Steve Witkoff a été impliqué dans des discussions autour du conflit en Ukraine, mais il est avant tout l'émissaire du président américain au Moyen-Orient. L'armée israélienne a ordonné ce vendredi matin l'évacuation d'une partie de la ville de Gaza. Le porte-parole arabophone de l'armée a émis un sérieux avertissement aux habitants de plusieurs quartiers et leur a demandé de se rendre dans les abris connus dans l'ouest de la ville. Une quarantaine de cibles ont été frappées ces dernières 24 heures. L'une près de Khan Younes dans le sud de l'enclave a fait 10 morts, dont 7 enfants. Au Liban voisin, le Hezbollah, allié du Hamas, se dit prêt à discuter de son désarmement avec le président libanais si Israël se retire du sud Liban et cesse ses frappes. C'est dans ce contexte de guerre régionale que le pays du Cèdre commémore ce 13 avril le 50e anniversaire du déclenchement de la guerre civile, l'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle avec plus de 150 000 morts, des centaines de milliers de blessés et des millions de déplacés. Des événements sont organisés dans tout le Liban. À Beyrouth, Paul Khalife.
50 ans après le déclenchement de la guerre civile, le retour à un conflit interne au Liban hante toujours les esprits. La commémoration de cet épisode historique tragique intervient cette année alors que le Liban sort à peine d'un conflit dévastateur avec Israël. Une guerre qui a profondément divisé les Libanais entre partisans et détracteurs du Hezbollah, lequel prône la lutte armée contre l'État hébreu. 35 ans après la fin du conflit, les mêmes lignes de fracture confessionnelle que celles qui prévalaient en 1975 traversent le pays. Les chiites et une partie des sunnites soutiennent l'option militaire contre Israël. Une majorité de chrétiens et une partie des sunnites plaident pour la méthode diplomatique. Un débat souvent acerbe secoue la société libanaise entre les partisans du désarmement du Hezbollah et ceux qui souhaitent un Liban fort, capable de se défendre. Malgré la polarisation des forces politiques et de la population, la situation reste jusqu'à présent gérable. La tension est palpable par la présence discrète d'unités de l'armée libanaise le long de l'ancienne ligne de démarcation qui coupait Beyrouth en deux durant la guerre civile. Cette artère qui délimite les régions à majorité chrétienne et celles à majorité musulmane est parfois le théâtre de rixes et d'accrochages armés. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Direction le Gabon à présent, cette veille d'élection présidentielle. 8 candidats sont en lice, mais 2 d'entre eux se détachent. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la transition depuis le coup d'État du 30 août 2023, et Alain-Claude Billy Binzé, dernier premier ministre du président déchu Ali Bongo. Il y a quelques jours, les évêques du Gabon ont lancé un appel pour une élection apaisée, transparente et respectueuse de la volonté populaire. Les attentes des citoyens sont nombreuses, explique l'analyste politique gabonaise Lisiane Neyer et Kenka.
Les attentes des Gabonais sont principalement d'ordre social, c'est-à-dire nous avons un taux de chômage qui commence à devenir alarmant, un système de santé qui doit être vu et amélioré. Nous avons une économie à diversifier. Autant d'enjeux.
La corruption, c'est une gangrène qui touche toutes les souches de la population. Que nous ayons une justice beaucoup plus indépendante et beaucoup plus proactive. Les joutes politiques, c'est une fois tous les 7 ans, soit au moment des législatives ou des présidentielles, mais au quotidien, ce que les Gabonais attendent de leurs dirigeants, c'est de voir leur quotidien être impacté par les politiques publiques qui sont mises en place.
Les actes seront attendus de celui qui sera déclaré vainqueur de ces élections. Nous sommes tous impatients de voir quel sera le choix définitif des Gabonais.
Des propos recueillis par Myriam Sandono. Élection présidentielle également en Équateur ce week-end. Le président actuel Daniel Noboa et sa rivale de gauche Luisa González ont clôturé jeudi leur campagne électorale dans le port de Guayaquil au sud, épicentre du narcotrafic et de la violence qui accable le pays. Votons avec conscience, espérance et responsabilité pour un Équateur libre, juste et uni, ont écrit les évêques équatoriens dans un communiqué. Cette violence qui fait rage à Quito mais aussi à Lima, de plus en plus de bandes criminelles sévissent dans la capitale péruvienne depuis le début de l'année. Ils s'en prennent aux petits commerçants, aux taxis et notamment aux chauffeurs de bus. Les syndicats des compagnies de transport ont manifesté hier devant le Congrès pour demander plus de fermeté au gouvernement face à l'horreur de ces assassinats. Reportage signé Martin Chabal.
Avec la colère des manifestants, il y a aussi beaucoup de tristesse. Liliana Zarate tient un portrait de Loimer Benigno, c'était son mari.
C'était vendredi, ils sont montés dans son bus alors qu'il transportait du monde, mais quelqu'un lui a tiré dessus, ils l'ont assassiné.
Elle avait 2 enfants avec Loimer. Elle tenait à être devant le Congrès car elle espère que les choses vont changer.
Je me sens détruite, je ne peux pas le croire. Il faut mettre fin à la délinquance. Le gouvernement, le Congrès, ils doivent faire quelque chose. Ça laisse des familles détruites.
Julio, lui, est chauffeur de bus depuis 40 ans et sort tous les jours avec la peur de ne pas rentrer le soir chez lui. Il veut du concret.
Il tue des innocents tous les jours. Alors qu'on remette la peine de mort. Il nous faudrait quelqu'un comme Bukele, le président du Salvador, pas ce gouvernement qui ne fait rien.
Le nom de Nayib Bukele est écrit sur de nombreuses pancartes dans la manifestation. C'est un vrai symbole dans la lutte contre la délinquance pour les Péruviens. Et ce, même si le respect des droits humains de ces méthodes est remis en question. Martin Chabal, pour Radio Vatican, à Lima.
Et puis on termine ce journal à Brasilia, où près de 200 organisations indigènes et environnementales du monde entier ont demandé hier à la présidence brésilienne de la COP30 de s'engager à mettre fin aux énergies fossiles. Lors d'une réunion des peuples indigènes des Amériques et d'Océanie à Brasilia, les ONG ont remis une lettre à la présidence de la conférence sur le changement climatique prévue en novembre au Brésil, l'exhortant à soutenir les appels à bloquer les nouveaux projets d'exploitation pétrolière. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Le journal en langue française revient à 18h, heure de Rome. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Belle après-midi à toutes et à tous en attendant.